Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Bonjour à tous. Donc comme Théo l'expliquait tout à l'heure, donc moi je suis en thèse CIFRE dans le BET LASA, encadrée par Samuel Tauchon-Dangui, et au Cresson je suis encadrée par Olivier Balahi. Donc pour vous présenter mon sujet de recherche, donc ma thèse s'intitule « La conception du logement à l'expérience des sonorités, Collexon, un prototype construit pour expérimenter à échelle 1 les ambiances sonores de demain depuis un logement ventilé naturellement ». Les questions qu'elle pose, et notamment là aujourd'hui, je vais vous parler surtout là des deux premières, sont: vers quelle écoute de la ville et du logement allons-nous avec l'urbanité post-carbone? Comment peut-on envisager une écoute agréable du futur? Et comment anticiper dès aujourd'hui les ambiances sonores de la ville de demain, dedans comme dehors? Les autres aspects de ma recherche traitent aussi les questions suivantes qui sont: comment concevoir des façades pouvant filtrer et atténuer les bruits en assurant une ventilation naturelle de jour comme de nuit? Quels sont les dispositifs sonores que le concepteur peut intégrer dans la fabrique d'un immeuble collectif qui participe aux ajustements et au mode de vie des habitants? Les axes que nous développons sont les suivants. L'objectif de cette démarche est de placer l'écoute au cœur de la conception architecturale et urbaine en testant des outils de simulation et des hypothèses d'anticipation des comportements sonores pour un projet donné. Les ambiances sonores de demain peuvent être imaginées à partir de trois approches. L'écoute des sociabilités à travers les typologies historiques, l'étude des sons déjà présents et l'élaboration de scénarios sonores pour imaginer et expérimenter des anticipations. L'expérimentation de ces outils doit être complétée par une écoute in situ dans un prototype construit à échelle 1. De ces expérimentations émergeront des outils d'appréhension du son pour les usagers et les concepteurs de futurs projets d'architecture. Et nous visons aussi l'ébauche d'un cahier des charges pour la prise en compte du sonore dès la phase concours. Donc ma présentation et surtout l'écoute que je vais vous proposer aujourd'hui d'expérimenter va se focaliser plus sur justement le deuxième point que j'ai mis en gras. Et après, je vous parlerai du prototype et quand on parlera avec Samuel ensuite. Donc pour ce temps d'échange que nous avons aujourd'hui et pour me prêter à l'exercice de l'expérimentation par l'écoute des sociabilités dans les typologies historiques, j'ai choisi 6 extraits sonores que je vais vous faire écouter à la suite. Ces extraits ont été choisis en tenant compte de 2 critères. Rendre compte de l'effet de réverbération et si possible aussi celui de métabole, et avoir été enregistré dans une cour ou depuis une fenêtre donnant sur la cour d'une typologie historique. Il s'agit par cette démarche de rendre compte de l'évolution de ces effets selon les différentes typologies urbaines et la façon dont elles font sonner les sociabilités. Elles nous serviront à établir des pistes sur les sonorités et les effets sonores pour un macrolot urbain en cours de conception à Villeurbanne sur lequel nous travaillons.
Fais-le quoi.
Donc voilà l'écoute que je voulais vous proposer pour justement essayer de retranscrire par les sons de cette évolution des typologies. C'est vraiment un travail qu'on est en train d'affiner avec Olivier. Et c'est vrai qu'on s'est posé de nombreuses questions déjà de format pour les présenter. Est-ce qu'on les présentait séparément, d'un seul tenant ? Donc là, c'est ce que je vous ai proposé aujourd'hui pour essayer de percevoir cette évolution en sélectionnant justement à chaque fois des extraits d'une minute vingt de chaque typologie. Et donc la poursuite de ce travail, c'est d'établir des hypothèses concernant les effets sonores et les sonorités des sociabilités, donc dans un macrolot urbain, comme je disais tout à l'heure, en conception, puisque nous, on travaille sur ce macrolot ici, qui est situé à Villeurbanne, et qui se situe justement dans les écoutes qu'on vient de voir vers la fin de la bande-son, où on a des îlots contemporains parisiens. Donc c'est vraiment d'essayer d'affiner justement ces hypothèses sur les effets sonores, sur les sociabilités qu'on pourrait entendre dans ce macrolot. On travaille aussi justement à l'idée d'élaborer des bandes sonores capables de faire entendre des imaginaires du projet aux acteurs, donc que ce soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et des futurs habitants. Et enfin, de croiser nos hypothèses concernant l'évolution de cet environnement sonore, donc de ce projet, à un prototype construit qu'on vient tout juste de finir, qui est un prototype construit de ventilation naturelle intégrant un filtrage sonore dans l'épaisseur de la façade, donc que vous pouvez voir ici. Alors, je vais faire. Voilà, ici. Et dont je vous parlerai juste après avec Samuel pour juste qu'on fasse peut-être un petit temps d'échange sur déjà comment vous avez reçu et perçu les typologies, l'évolution des typologies historiques.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a déjà des premières réactions à ces écoutes est-ce que ça provoque des choses chez certains
Merci pour cette présentation d'abord. Et moi, je me posais la question dans l'enfilade des sons. Est-ce qu'on est bien dans l'hyperlocal ou est-ce qu'on est dans quelque chose de plus vaste ? Quels sont les liens entre les différentes choses ? Et ça me paraissait être comme un nuancier des potentialités sonores. Mais est-ce qu'il y a la nuit dedans ? Est-ce qu'il y a que du jour ? Voilà.
À chaque fois, on est de jour et on est à chaque fois dans des cours. Alors, dans les cours ou depuis la fenêtre vers la cour. Quand on a des îlots plus fermés, c'est pas une perception de la rue. Là, l'idée, c'était vraiment qu'on voulait essayer de percevoir depuis les cours comment ça se passait, parce que c'est là où on est le plus à même peut-être d'entendre les sociabilités qui vont pouvoir être perçues dans l'ensemble de l'îlot, enfin des différentes typologies. Là, il faudrait que je recherche dans les sources, mais enfin, celles que j'ai listées à chaque fois, c'est pas toujours aux mêmes heures, ni aux mêmes époques. C'est un peu toujours le souci, mais en tout cas, la localisation essaye de s'approcher, d'avoir ce fil-là, en tout cas.
Merci effectivement Charlotte de cette présentation. En effet, la question de l'heure qu'a posé Léonore me tiraille un petit peu parce que ces différentes socialités et pratiques dans des cours d'ILO sont évidemment liées aux disponibilités de ces habitants qu'on entend à un moment un groupe d'enfants qui sont en train de courir. Ce qu'on entend, c'est des tongs. Donc ça nous dit, ah mais tiens, d'un seul coup, on est plutôt au soleil. À l'arrière-plan, on entend un avion, mais qui fait plutôt avion de tourisme. Donc d'un seul coup, ça vient nous teinter la situation globale d'une certaine manière, quand à d'autres moments, on va voir d'autres indices. Donc la régularité, en tout cas, voilà, je me demande comment vous pouvez vous en servir, ou est-ce que c'est il y a une possibilité de projection à ce niveau-là. Et l'autre question concerne plutôt ce filtre, cette ventilation naturelle, puisqu'à chaque fois, on a effectivement dans cette rumeur de la ville, beaucoup par les circulations. Alors selon les îlots, selon les façades, on va voir qui davantage du roulement dans des très graves, dans du bas médium. Il y a sur le troisième ou quatrième extrait où on a un souffle un peu dans du médium, bas médium, et en plus de ça, alors qu'il doit être une ventilation initiale dans la cour d'îlot, plus la circulation qui fait une autre nappe comme ça. Donc je ne sais pas, ce choix de la ventilation qui est naturelle, qui vient agir comme un filtre, alors c'est un masque, sur quelle plage de fréquence, enfin comment vous jouez avec ça, comment ça devient un instrument?
Ça va être la transition pour juste après. En fait, non mais justement, c'est un peu les sujets qui se croisent, donc on vous montre un peu des extraits aujourd'hui, et j'essaye aussi de tisser les liens parce que c'est tout ce qu'on fait en même temps. Et donc, comme on est vraiment sur l'anticipation, on est dans un cas concret d'un macrolo, mais on réfléchit vraiment sur comment expérimenter cette anticipation de l'écoute. Et quelles projections on va se donner. Donc on a aussi beaucoup réfléchi sur justement les projections de l'évolution des mobilités, des transports en commun, la perte par exemple des fréquences graves si le moteur thermique disparaissait, et dans quelle mesure. Donc là, c'est des choses aussi qu'on a beaucoup regardées. Et parce qu'on voulait tester un prototype construit, au début c'était un prototype qui devait être beaucoup plus grand et qui devait inclure en fait plein de diffusions sonores, de bandes qu'on va produire dans le prototype et inclure nos réflexions sur le confort d'été. Pour des raisons de coût et de temps, on n'a pas pu. Donc on a décidé de faire à minima un prototype qui allait démontrer justement cette tentative de filtrage sonore et qui permettrait en fait une ventilation naturelle, un confort d'été, où on pourrait dormir avec cette fenêtre ouverte, cette fenêtre qui intègre le filtrage en low-tech complètement, parce que c'est un traitement acoustique. Il n'y a pas d'haut-parleur ou d'opposition de fréquence. Et du coup, voilà, ça, c'est le prototype que je vais après juste vous faire écouter, et vous entendrez en fait un bruit de rose via le prototype, et vous verrez en fait les bandes de fréquences que ça filtre. On vient tout juste de le finir, et je viens de faire cette bande la semaine dernière, donc c'est vraiment tout frais. Et je vais vous en parler juste après, si vous avez encore des remarques sur les typologies, ou sinon je passe sur...
Moi, j'ai juste une petite question. Merci, Charlotte, hein, déjà pour cette écoute. Je reviens peut-être un tout petit peu en arrière dans le prolongement des deux questions précédentes. C'est une vraie hypothèse de travail de considérer que les sociabilités peuvent être appréhendées d'abord et avant tout au sein de ces cours intérieurs, hein, si j'ai bien compris. Et du coup, je me demandais s'il y en avait d'autres d'hypothèses de travail, si vous aviez envie d'en prolonger d'autres, peut-être sur les alentours justement de ce macro-ILO.
Non, parce que en fait c'est plus l'approche, c'est qu'on est en train d'affiner avec Olivier, c'était par les effets. Et en parallèle, moi je me posais beaucoup la question sur justement les objets sonores, les types de signaux sonores qu'on pouvait avoir, et les trois grands groupes que j'ai, pour simplifier, où je me disais bon, bah, les sons technologiques qui pouvaient être ventilation et transport, les sons des sociabilités et les sons naturels. Et du coup, c'était intéressant pour les sociabilités de s'intéresser justement aux enregistrements et aux travaux qui avaient déjà été faits sur ces perceptions de sociabilité dans les typologies. Parce qu'on essaye vraiment justement de trouver un moyen de rendre compte d'une évolution de ces perceptions par les effets, voir si justement, typologie après typologie, on peut percevoir une évolution de ces perceptions-là.
Justement, on a un certain nombre de travaux, notamment sur des sociabilités dans dans des coursives, par exemple. Alors, c'est peut-être pas la typologie là de l'îlot sur lequel vous travaillez, mais il me semble que les sociabilités ne se jouent pas. Alors, elle se joue bien sûr dans ses cours intérieurs, mais elle se diffuse aussi dans des lieux, dans des micro-lieux. Voilà, et je me demandais si potentiellement vous aviez peut-être l'envie aussi de travailler là-dessus, sachant que dans les travaux sur les effets sonores, on a des éléments sur ces questions-là aussi. Voilà, d'où la question.
Oui, merci, c'est tout à fait juste, puisque justement l'intérêt sur les micro-lieux ou sur les espaces intermédiaires notamment. Pour l'instant, moi je me suis dit que je voulais vraiment expérimenter avec vous cette écoute-là et qu'après, je voudrais justement tester dans l'application du cas concret du macro-lot, si on localise des espaces intermédiaires, à ce moment-là, voir pour peut-être reprendre cet axe-là. Mais en fait, comme le macro-lot sur lequel on travaille, en fait, là, vous avez une 3D du macro-lot. Alors ça, c'est une simulation acoustique. On a vraiment cette sorte de méga cours, enfin de macro cours sur un socle. Et du coup, on est dans une forme de cours très contemporaine. Et par rapport justement à d'autres îlots qu'on vient d'entendre, les premières hypothèses un peu qu'on est en train de mettre en place, c'est que déjà on a une surélévation du socle, donc on a un filtrage justement des bruits de transport de la ville. Et on a entre l'ubiquité et la réverbération ces deux effets qui je pense, vont un peu justement interagir dans ce macro-lot, parce qu'on n'a pas non plus une coupure distincte avec la ville. On a des sons qui viennent se ramener, puisqu'on a des tours et on n'a pas un effet justement masque de bâtiments tout autour de la cour. Donc on est dans une cour hybride qui est surélevée du sol, qui filtre un peu la ville mais qui l'aperçoit, et qui va chercher aussi des très grandes hauteurs, parce qu'on a une tour qui va jusqu'à 50 mètres. Donc là, c'est encore d'autres choses. Là, on n'est plus du tout dans ce qu'on vient de dire sur justement l'approche par la cour. Donc il y a plein de situations, il y a plein de typologies que je vais plus aborder en fait dans la partie de mon travail sur les réflexions sur comment construire les imaginaires et les bandes sonores, et comment justement j'ai aussi construit mon prototype, qui n'est pas celui que j'ai réalisé, mais le gros prototype qu'on visait au début, en fait qui visait à être un prototype où je venais imbriquer les différentes typologies d'espaces intermédiaires pour avoir un condensé comme ça de ces situations-là. Donc ce sera plutôt après ça.
Avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Moi j'avais une petite remarque sinon, parce qu'effectivement j'ai introduit la session en parlant d'expérience par le corps, et donc c'est peut-être des choses dont on va parler juste après. Mais ce que je trouvais intéressant là aussi, c'est l'apport méthodologique que peut apporter l'expérimentation. Je me dis que la proposition qui a été faite là de nous faire écouter ces fragments à la suite, c'est quand même assez finalement assez original, quoi, parce que c'est des fragments différents, de quartiers, d'époques différentes, avec une focale qui a été choisie, qui est celle de l'effet sonore, de la réverbération et un peu de l'ubiquité. Et je me demandais comment ça avait été réfléchi, parce que justement on voit que ça fait émerger des questions, par exemple sur la temporalité de ces prises de son, des questions qui seraient peut-être pas venues si on avait écouté les fragments un à un dissociés. Et du coup, peut-être c'est aussi une méthodologie d'écoute intéressante à creuser pour dire on va pointer vers des questions ou pointer vers des mises en avant des potentiels du sonore. Pour la question des ambiances, donc les temporalités, il y en a peut-être d'autres. Et voilà, est-ce que ça a été réfléchi ? Enfin voilà, comment ça a été réfléchi cette écoute ?
Ce qui a été en tout cas réfléchi avec Olivier, c'est la sélection des pistes, la sélection des sources, et vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'approche de l'effet de réverbération et la perception des sociabilités dans les cours. Et donc ça, c'était ce qu'on avait vu ensemble. Et donc moi, j'ai après vraiment travaillé sur choisir des extraits dans les bandes sonores, puisqu'elles sont beaucoup plus longues. Certaines sont beaucoup plus longues à la base. Et par contre, l'enchaînement des bandes, c'est ce que j'ai vraiment proposé aujourd'hui. On n'en avait pas encore. Olivier le découvre en même temps que vous. Donc c'est une expérimentation pour tout le monde. Et après, j'ai eu la même. Enfin, je me suis posé les mêmes questions sur la question des temporalités, des saisons, des heures. C'est impossible d'avoir en fait des typologies différentes aux mêmes heures, aux mêmes époques. C'est, en tout cas, même dans les travaux de recherche qui ont été faits, et moi dans mes recherches de terrain, j'ai jamais la même situation exactement au même moment ou dans le même contexte. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aussi focaliser l'attention peut-être sur des aspects vraiment de l'écoute qui ne sont pas les faits, mais vraiment on va peut-être l'attention va tiquer sur une sociabilité qui est induite par une heure donnée qui ne l'est pas sur une autre bande. Je retiens tout à fait cette remarque. Mais non, sur l'expérimentation des bandes d'un coup, c'est ce que je propose aujourd'hui vraiment pour tester avec vous. Et Olivier le découvre avec vous. Et Samuel aussi.
Oui, alors petite remarque, si je peux. Théo, c'est bon, on a le temps, Théo, là ?
Bah, prends-le.
Ok, excuse-moi.
2 minutes.
Donc, c'était peut-être que à Nantes, c'était plus facile pour vous, mais moi, j'ai trouvé qu'en termes de retranscription de l'évolution de la réverbération et de la présence de la sociabilité, c'était pas si évident que ça. Les fragments étaient peut-être beaucoup trop silencieux, mais comme j'étais éloigné, je voulais savoir si vous aviez aussi la même perception. C'est-à-dire, c'est pas évident qu'on parle beaucoup de la réverb, et c'est pas évident que la sociabilité soit vraiment, comment dire ça, on la raconte à travers le son.
Bah après, il faut dire que les avoir écoutés au casque pendant plusieurs jours, moi, je les entendais bien. Mais en même temps, les sociabilités, je trouve que c'est compliqué de... Moi, la question que je me pose toujours, c'est s'il n'y en a pas, ça veut aussi dire quelque chose. Ou s'il y en a peu, ça veut aussi dire quelque chose. Donc là, je trouve qu'on les entendait. Mais... elles sont à chaque fois différentes selon les typologies et justement, on se rend compte que quand elles manquent, on entend parfois plus la rumeur urbaine, on vient être perturbé par des bruits technologiques et ça questionne vraiment sur cette notion d'équilibre sonore sur une typologie quelle qu'elle soit, quelle que soit son époque. Et ce que je trouve en tout cas intéressant, c'est de se dire, ça nous questionne si on entend cette bande-là avant même de venir sur un terrain qu'on est en train de dessiner, sur un projet qu'on est en train de dessiner, c'est de se dire quelle place on va leur donner, comment on va les mettre en avant et comment elles vont se mélanger, s'équilibrer avec le reste. Donc je trouve que oui, c'est difficile de rendre compte d'une évolution linéaire, parce qu'encore une fois, les temporalités, les saisons ne sont pas les mêmes. Mais on peut, c'est difficile de... Je trouve pas forcément, important d'avoir la même charge de sociabilité dans l'écoute de chaque bande. Je sais pas si c'est clair, mais...
C'est peut-être ça qui est intéressant.
Oui, je trouve que c'est intéressant justement quand il y en a moins et de se dire qu'est-ce qu'on entend à côté dans un lieu où ça pourrait aussi réverbérer. Enfin, c'est aussi quelque part le fait d'avoir différentes bandes collées les unes aux autres, ça pose des questions de ce genre.
Moi, j'avais juste une remarque, c'est pour dire qu'en fait, dans ce type d'expérience qu'on vient de faire, il y a un effet de l'écoute elle-même, c'est-à-dire là où on est, comment on est. Toi, tu as écouté au casque avant, donc tu as isolé certains phénomènes qui peut-être ici ne passent pas, qui de l'autre côté ne passent encore moins. Et donc, il y a une espèce d'écoute très, diverse en fait. Et donc, c'est très difficile je pense qu'on est, il y a cet effet qui est vraiment propre à toute retransmission de son enregistré, etc., qui a toujours été remarqué et remarquable. Et surtout que, comme tu présentes au départ le terme de typologie, moi je me suis posé la question de quel type on nous parle, qu'est-ce que c'est qu'une typologie. Et et pour répondre à la question d'Olivier, moi il me semblait qu'effectivement les phénomènes, des champs sociaux qu'on peut percevoir, alors plus ou moins filtrés au début, puis un peu plus réverbérés à la fin, bon voilà ce que j'ai retenu, quoi. Mais c'est très très schématique en fait, voilà, ça reste extrêmement schématique. Et je me pose la question de l'efficacité. De l'efficacité, c'est peut-être pas le mot, mais de l'effet de l'écoute. Quoi.
Oui.
C'est un peu...
Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça questionne aussi... moi, ça me questionne à chaque fois sur... dès le moment où on fait écouter quelque chose, on va aussi avoir plein de conditions d'écoute et plein de conditions de réception qui vont conditionner notre interprétation, justement, de la bande. Et aussi, je pars du principe que je pourrais pas le contrôler à chaque fois et que je le teste. Et ce sera pareil quand on va faire des bandes sonores qu'on va écouter avec les habitants. On va avoir des interprétations qui ne seront même pas du tout liées au contenu et qui vont être « Ah ben là, j'entendais pas très bien » ou « J'étais pas très bien réveillée ». Enfin, c'était... Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, comme tu le disais, moi, je l'ai écouté au casque en plus plusieurs fois. Donc du coup, c'est vrai que je le remarquais d'autant plus au fur et à mesure où je l'écoutais. des choses qui, à mon avis, vous n'avez peut-être même pas entendues sur l'app, puis comme la bande était longue. Mais je trouvais que c'était un exercice, en tout cas, voilà, intéressant à faire. Mais c'est vrai que ça soulève plein de questions. Vous voulez qu'on passe au prototype construit ?
Oui, super.
Voilà. Samuel, si tu veux faire une introduction, et après, je lance l'enregistrement que j'ai fait avec Adrien.
Ok, si tu veux. Bah, oui, donc... Finalement, ce prototype qui a été construit, qui est donc beaucoup plus, mesuré que ce qu'on a à l'écran. C'est-à-dire l'idée initiale qui était vraiment un ensemble qui permettait d'écouter différentes situations sonores, typologies sonores du futur ILO. Dans cette chose-là, j'avais souhaité qu'on intègre un petit truc qui est quelque part une poursuite par l'expérimentation construite de travaux de R&D qu'on mène depuis plusieurs années chez nous, chez LASA, pour quelque part donc essayer de proposer des réponses, je dirais, applicables, intégrables dans les projets, quelque part aux défis que représente la superposition des sujets ventilation naturelle et ambiance sonore intérieur-extérieur. En gros, pour faire simple, comment proposer un objet qui permet d'assurer des forts débits de ventilation naturelle, mais tout en pouvant piloter l'atténuation ou la perception des ambiances sonores extérieures, que l'occupant, l'habitant puisse à la fois piloter donc cet apport d'air frais sa perception des ambiances sonores intérieures-extérieures. Donc on parle d'ouvrant de ventilation naturelle acoustique. Donc voilà, l'idée c'était de profiter de ce prototype construit pour intégrer ce dispositif, parce que dans nos pratiques, nous de bureau d'études, il se trouve que depuis on a des projets où on arrive petit à petit finalement à mettre en place ces solutions, à développer ces solutions, mais on a eu pendant de nombreuses années des blocages sur les projets, parce que comme c'était des choses pas classiques, potentiellement qui engendrent des coûts, des modifications, on avait du mal à avancer sur ces sujets. Donc, un prototype peut être toujours ensuite. Bon, voilà pour parce que l'origine de l'idée d'essayer d'intégrer ça.
Et du coup, on a construit deux prototypes d'ouvrants de ventilation naturelle acoustique qui sont situés dans la maison du projet de la ZAC Gratte-Ciel, qui est le site d'occupation temporaire en fait, du macro-lot sur lequel on travaille. Donc on a réussi à s'insérer dans la maison du projet grâce à l'aménageur. Et là, je vais vous faire entendre donc un enregistrement de la première session de mesure acoustique qu'on a faite il y a une quinzaine de jours. Et du coup, là, c'est la manipulation du prototype avec on a du bruit rose à l'extérieur qui est diffusé à 6 mètres de la façade à 90 dB. Et en fait, vous allez entendre la manipulation du prototype. Donc, vous avez une fenêtre là qui est une fenêtre standard, enfin, qui a une fenêtre qui a une certaine efficacité acoustique, mais en tout cas, qui est une fenêtre de ventilation normale. Et à l'intérieur, là, en fait, on a appliqué, nous, la conception architecturale et acoustique du prototype. Et ici, c'est l'ouvrant, justement, qui intègre ce filtrage sonore que vous entendrez dans un second temps. L'écoute. Vous voulez réécouter ?
Oui.
Ouais, mais plus fort encore. Donc là, en fait, d'un seul tenant, on manipule le prototype complet. Donc le prototype, en fait, il y a une fenêtre qui est normale et la prise d'air se fait dans le tableau de cette fenêtre-là. Il y a un traitement acoustique qu'on a dimensionné donc pour ce prototype qui permet le filtrage sonore. Et la deuxième partie, vous entendez en fait quand j'ouvre cet ouvrant-là, qui est l'ouvrant en fait qui permet la ventilation naturelle avec le filtrage acoustique.
Dans la deuxième partie.
Ouais. Au début, tout est fermé. Tout est fermé. J'ouvre celle-là. Après, je ferme celle-là et j'ouvre l'ouvrant. L'objectif qu'on s'était fixé et qui pour l'instant, là des premières mesures qu'on a faites qui est atteint, parce qu'on n'a pas encore exporté toutes nos datas, mais l'objectif qu'on s'était fixé, c'est qu'on puisse permettre une ventilation naturelle, donc nocturne, pour un rafraîchissement naturel, et qu'on ait une efficacité acoustique de 15 dB supérieure dans l'ouvrant par rapport à une fenêtre normale entrebâillée. Entre 10 et 15 dB, on s'était fixé. Et là, sur les premières mesures, on est autour de 16-17 dB. C'est ce qu'on est en train de retravailler. Et donc là, comme vous l'avez entendu, on va aussi regarder de plus près tout ce qui se passe au niveau des fréquences.
Merci encore. Mais c'est justement la question des fréquences que je me pose, parce qu'en termes de ressenti, j'ai l'impression que ça devient vachement plus grave. Et est-ce que ce grave, il ne va pas produire de la désorientation physique jusque-là? Parce qu'un espace qui est quand même relativement artificiel, hein, donc on vit dans des atmosphères de plus en plus artificielles, où un champ fréquentiel ordinaire est manipulé à ce point. En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez violent, la différence. Donc, est-ce que vous comptez évaluer ça avec les occupants, par exemple?
Un effet de l'écoute.
Ouais, surtout, si je peux dire un mot là-dessus, c'est que, pour moi, c'est très anticipé hein, quand même de discuter de tout ça, parce que...
C'est très frais.
C'est très frais, et là... Charlotte a présenté une bande avec du bruit rose qui veut un peu rien dire, parce que c'est parce que finalement les gens percevront. La suite, c'est étudier les perceptions avec les vrais bruits de la ville. Donc il y a l'idée de diffuser des bandes sonores et aussi de toute façon d'utiliser les fonds sonores du site pour évaluer justement effectivement ce que ça donne en termes perceptifs, ce filtrage qui, du fait même de la technologie là, du système, sera toujours un peu plus, effectivement, filtrant haute fréquence, médium fréquence, en basse fréquence. Et ça fait partie, effectivement, la question est tout à fait judicieuse, puisque ça fait partie du but de faire ce prototype que d'arriver à mieux appréhender, y compris sensiblement, au-delà des calculs qu'on a pu faire avant, parce qu'on sait à peu près où on va arriver, mais d'appréhender quand même vraiment par l'écoute ce que ça donne, quoi. Donc c'est effectivement une vraie question. Je pense que cet extrait sonore-là est un peu délicat, parce que, déjà, c'est vrai qu'à distance, au plus, comme on n'a pas de vidéo en même temps, Charlotte, tu vois, on ne sait pas à quel moment exactement on en est. Bon, c'est pas si simple, même si tu nous l'as expliqué au départ. Et deuxièmement, je pense que on pourra plus facilement discuter de l'effet sur base de bandes sonores, ou du moins d'ambiance sonore plus proche de ce qui se passe vraiment, ou de ce qui se passera vraiment dehors, qu'un bruit rose. Parce que là, je suis d'accord, hein, c'est un peu étonnant en première approche.
J'ai volontairement choisi de vous montrer celui-là avec le bruit rose, parce que j'avais fait avant, quand j'avais juste fini le chantier, on avait fini d'installer le prototype, j'ai aussi la vidéo, je pourrais vous la montrer plus tard dans la journée, j'avais fait une vidéo beaucoup plus bricolée, où j'avais diffusé de la musique sur de l'iPad très fort, et là en fait on ouvrait le petit ouvrant et on n'entendait plus rien. Et je trouvais ça intéressant, mais je trouvais ça tellement impressionnant en fait, le bruit rose, Et c'est ce que je trouve justement questionner le plus l'expérimentation de ce prototype, parce que comme dit Samuel, on a fait des calculs. C'est un dispositif qui se met difficilement en place dans les projets, alors que la ventilation naturelle questionne de plus en plus les gens. Et du coup, c'est vraiment, avec le bruit rose, c'est quelque chose qui nous dit beaucoup de choses et en même temps qui est complètement faussé puisque c'est artificiel. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai choisi plutôt cet extrait-là à vous montrer aujourd'hui, parce que je savais que ce serait plus intéressant. Donc...
Bon, ceci dit, le bruit rose représente quand même ce qu'on pourrait avoir comme... ça donne une idée d'un bruit de trafic un peu constant au bord d'une voie, un flux constant. Ça, c'est vrai que pour ça, c'est ça donne quand même une idée.
Moi, pour réagir et aller un peu dans le sens, enfin prolonger la question d'Éléonore, je trouve ça assez fascinant et intéressant. Je me dis la projection dans la suite, c'est-à-dire que là, on est encore dans la mesure, donc on est presque encore dans le prototype industriel, quoi. On fait quelque chose, puis on mesure son efficacité rationnelle. La question d'Éléonore, et j'avais un peu la même approche par rapport à ça, c'est de dire qu'est-ce qui découle de ça en termes d'usage, en termes de rapport à l'espace, de rapport à... qu'est-ce que l'écoute fabrique, quoi. Une fenêtre, quand on va ouvrir une fenêtre traditionnelle, bon, effectivement, on n'a pas de filtrage, ou très peu, et du coup, on a une entrée de sonore assez importante, mais du coup, il va y avoir des postures qui vont être associées. Par exemple, on va se pencher à la fenêtre, ou au contraire, on va s'asseoir contre la fenêtre, parce qu'on va ouvrir, prendre l'air, etc. Donc, on va entendre, se projeter, etc. Un dispositif comme celui-là, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça provoque en termes de corps, en termes de rapport à ce nouveau filtrage, en fait. Parce que du coup, là, c'est complètement autre chose. On n'ouvre plus une fenêtre qui nous ouvre sur l'acoustique extérieure. On ouvre un filtre, et donc on ouvre un autre univers que l'univers réel, l'univers sonore réel dehors. Et donc je me dis, voilà, l'expérimentation d'ambiance, quoi, qui fait que on évalue, bah, effectivement, métrologiquement les données mesurées, mesurables, mais on évalue aussi ce que ça provoque en termes d'usage, quoi. Et là, je trouve que ça peut être vraiment très très intéressant. Mais c'est une remarque comme ça, hein, mais je me dis vraiment à creuser cette question, parce que qu'est-ce que ça va provoquer de nouveau? Sans qu'il y ait de jugement de valeur par rapport à ça, quoi.
Mais surtout qu'en plus, nous, notre axe d'approche, c'était justement le rafraîchissement nocturne. Donc l'idée, c'est d'avoir justement, enfin, d'avoir ce dispositif qu'on puisse installer dans une chambre qui est à recouper aussi par rapport au terrain existant, puisque ce qu'on essaye de développer pour le prolongement de ce prototype-là, c'est de se dire où est-ce qu'on pourrait le mettre. Parce qu'il y aurait peut-être des endroits dans le projet où ça ne servira à rien, parce que en fait, le contexte serait peut-être trop sonore et ne permettrait pas justement ce rafraîchissement tout en ouvrant la fenêtre et en réussissant à dormir. Où est-ce qu'on le met ? Enfin, il y a déjà la localisation du prototype dans un projet qui pose question. Et les postures, comme tu dis, là, on est en plus dans un cas où nous, on se projette une personne qui dort. Donc du coup, c'est la posture dans la chambre pour la nuit, de savoir si on filtre ou pas, si on ouvre l'autre fenêtre, à quel moment justement on pourrait ouvrir le dispositif à telle ou telle fenêtre ou tel endroit.
Oui, moi j'ai vraiment entendu un peu la carcasse de la façade, en fait, mais bon, comme on est très à distance, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que vous avez vécu, vous.
C'est l'effet d'écoute, comme disait Grégoire.
Ouais, d'accord. Mais moi, j'ai vraiment entendu une carcasse, là, avec les graves et tout, c'était impressionnant. Mais c'était des graves qui étaient dans une réverb, quoi.
Oui, merci Charlotte pour ces présentations. Alors, c'est vrai que je rejoignais Éléonore sur la question de la temporalité et sur aussi la saisonnalité. Il me semblait effectivement que dans les premiers enregistrements, je me questionnais sur effectivement la saisonnalité choisie, en fait, parce qu'en fait, tu expliquais que finalement, c'est difficile d'être à la même heure, au même endroit, suivant les mêmes conditions, et ça, on peut l'entendre. Mais est-ce que, en fait, l'idée de peut-être se restreindre sur un certain climat ou sur une certaine période de l'année n'aurait pas facilité à la fois, en fait, la mise en avant de la sociabilité dans ces cours? Ça, c'est la première question. Et là, quand je découvre un petit peu le dispositif, je me dis qu'effectivement, la question de la temporalité, elle se pose doublement, il me semble, puisque, a priori, en fait, la visée première, c'est de ventiler la nuit. Et la nuit, c'est pas le moment où il y a, j'imagine, en tout cas, le plus de sociabilité au sein des cours. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a un petit décalage entre ce que tu nous as fait écouter... Voilà, on a tous eu le même ressenti. Alors, c'est l'effet de l'écoute, comme dit Grégoire, mais il n'y a peut-être pas que ça. et donc, peut-être que... Enfin, c'était une proposition. Hein, je trouve que c'est très ambitieux, en fait, comme travail, d'aller à la fois
travailler sur des différentes typologies, d'aller jusqu'à proposer un dispositif de façade construit, expérimenté. Enfin, voilà, le spectre est assez large et assez intéressant. Hein. Mais voilà, la proposition, et je me disais que peut-être que ce qui pourrait t'aider, c'est de restreindre, enfin, en tout cas, de restreindre les temps d'expérimentation par rapport à des conditions qui sont définies. Enfin, en tout cas, effectivement, tu n'auras jamais les mêmes, mais on peut quand même s'en rapprocher. Pour se mettre dans les meilleures conditions et les conditions les plus réelles, en fait. Parce que je trouve que c'est un vrai enjeu de pouvoir effectivement ventiler la nuit et rafraîchir du coup les bâtiments. Donc bravo. Hein. Oui, non, mais en fait, non, mais bien sûr.
Pour la sieste.
Non, mais bien sûr, mais en fait, je trouve que. Non, mais évidemment. Mais voilà, se mettre peut-être déjà sur la question du climat dans des situations qui sont un peu plus communes. Je pense que ça pourrait t'aider, en fait.
Ouais.
Voilà.
Mais merci.
Mais bravo, hein, parce que c'est ambitieux et c'est intéressant.
Et juste pour prolonger de ce fait, puisque effectivement, ambiance sonore nocturne, milieu sonore nocturne, c'est extrêmement différent de ce qu'on a pu écouter sur la journée. Et l'un comme l'autre, bah, je prolonge d'une certaine manière la remarque de Virginie et celle d'Éléonore, mais cette compréhension qualitative et non pas que quantitative, moins de dB, plus de dB, mais surtout qu'est-ce qu'on entend et comment on filtre, c'est est-ce qu'il y a une manière d'envisager un réglage de ce filtre, un réglage fréquentiel, de pouvoir l'ajuster, un peu comme on n'est plus forcément, on n'est pas qu'habitant, on est aussi instrumentiste et on ajuste bien avec des voilages à la con en dentelle ou pas en dentelle l'ambiance lumineuse, et bah pourquoi on ne pourrait pas aussi ajuster et doser une ambiance sonore. Je ne sais pas si c'est une piste que vous envisagez.
Alors, ce sera sûrement une piste d'ouverture, mais pas d'expérimentation construite, parce que là, ça a été déjà très sportif pour faire deux prototypes en 5 mois, même pas, et trouver le financement. Donc là, il vient tout juste d'être fini. Il y a d'autres choses qui doivent être faites. Mais c'est des questions qu'on se pose sur, justement, comme là, c'est le prototype, c'est la version 1. Et en plus, on en a deux différents. Il y en a un où on a mis beaucoup plus de laine pour voir ce que ça va influer, justement, sur les fréquences graves. C'est aussi, on n'a pas encore fait cette session de mesure pour comparer. Donc on a déjà deux dimensionnements différents. L'idée, en tout cas, juste pour répondre, après on passera à autre chose, c'est le filtrer. L'idée, c'est qu'on s'est dit que c'est les gens qui pouvaient filtrer en manipulant la fenêtre, qu'on était sur du low-tech, et qu'après, s'il fallait faire des développements ultérieurs sur les fréquences, le traitement de la façade, ce serait une conception à revoir sur vraiment le dimensionnement interne du prototype, et ce serait plus des ouvertures, en fait, à dessiner, mais en tout cas là qu'on ne construirait pas sur ce cadre-là.
Mais c'est... Non, moi j'ai deux remarques et après on arrête. Je trouve bien d'avoir mis le bruit rose quand même, parce que je trouve bien d'avoir un son complètement neutre et moche, et enfin bref, comme... Ouais, si, je pense que c'est pas mal d'avoir ça, et ensuite de tester les autres. Parce que on l'avait fait sur l'Abribus il y a bien longtemps. On tournait autour de l'Abribus avec un bruit rose et c'était extrêmement intéressant parce que c'est l'objet qui modifiait la réception. Et on pourrait très bien imaginer la même chose là, si je suis à une distance ou si je passe devant ou si je mets ceci, cela, etc. Donc ça recontextualise l'expérience. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, et puis sur la manipulation des gens, moi je me souviens quand on avait travaillé sur le bien-être sonore à domicile il y a bien longtemps. L'entrebâillement des choses, enfin de la fenêtre, des portes, des choses comme ça, les habitants en parlaient pas mal, donc c'est intéressant en termes de dosage, de filtrage, parce que entrebâiller une fenêtre ou une porte, c'est intéressant en termes sonores. Tout simplement.